La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Faut-il protéger les liens entre frères et sœurs? C'est la question que l'on va se poser dans notre émission ce soir. Aujourd'hui en Belgique, en cas de placement notamment, aucune loi n'oblige à garder les frères et sœurs unis. Dans la majorité des cas, les frères et sœurs sont ainsi séparés. Des fratries se retrouvent éclatées dans 3, 4 institutions ou familles différentes. En perte de repères, les enfants gardent souvent des séquelles irréversibles. Depuis plusieurs mois, un groupe de travail réunit de nombreux acteurs du secteur de l'aide à la jeunesse. Son objectif, intégrer dans le Code civil belge une protection des fratries. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir 3 membres de ce groupe de travail. Alors tout d'abord Stéphanie Ax, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en psychologie, maître de conférence à l'ULG et thérapeute familiale à SOS Village d'Enfants de Nassogne, donc une structure d'accueil qui privilégie le placement en fratrie justement, et vous nous expliquerez comment ça fonctionne dans un instant. Alors à vos côtés Caroline Salingro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice pédagogique du Clos du Chemin Vert, une ASBL située à Chimay qui accueille entre autres des enfants placés. Et avant ça, vous avez travaillé dans un service de protection judiciaire pendant de nombreuses années. Donc vous connaissez, on va dire, les deux facettes, les deux côtés de la problématique. Et enfin, Serge Léonard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat et juriste expert auprès du délégué général aux droits de l'enfant. Alors Serge Léonard, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu juridiquement le contexte légal? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà une forme de protection ou non des fratries?
Alors je commencerai peut-être par les fondamentaux. Je pense que c'est toujours important de revenir aux fondamentaux de base. Et tant au niveau du Comité des droits de l'enfant, les recommandations vont dans le sens d'un maintien du lien de fratrie. Et tant au niveau des recommandations européennes, les recommandations vont dans le sens du maintien du lien de fratrie. Vous avez aussi une jurisprudence qui émane de la Cour européenne des droits de l'homme et qui dit effectivement que le lien de fratrie doit être respecté. Et vous avez des États qui ont été condamnés pour non-respect du lien de fratrie parce que ces États faisaient prévaloir des obligations administratives sur le droit à la vie privée. C'est dans l'article 8 de la Convention européenne qui dit qu'il faut maintenir un respect du droit au maintien à la vie privée. La vie privée, c'est la vie familiale, c'est le respect de l'intimité, c'est le respect des liens d'attachement, des liens affectifs. Et puis alors, vous avez des dispositions légales en Belgique qui sont contenues notamment dans le décret du 4 mars 1991 qui doit faire l'objet d'une refonte. Et dans ces décrets, effectivement, il y a effectivement des articles qui disent très bien que le conseiller comme le directeur de l'aide à la jeunesse doivent faire en sorte que le lien de fratrie soit maintenu lorsqu'il y a retrait du maintien retrait familial.
Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ces décrets ne sont pas respectés alors?
Alors, c'est effectivement toute la difficulté, c'est que ces décrets ne sont pas respectés. Il y a des textes effectivement, mais ces décrets ne sont pas respectés. Raison pour laquelle Stéphanie Ax a notamment mis en ligne un questionnaire dont l'objectif c'est un peu de faire un diagnostic sur les raisons pour lesquelles il y a des freins qui empêchent effectivement de maintenir le lien, de respecter le lien de fratrie lorsqu'il y a retrait familial. Donc ça c'est une question, c'est intéressant d'aborder ces questions-là parce que nous avons des textes mais ces textes ne sont pas appliqués, il faut les rendre effectifs.
Alors juste pour que ce soit clair, parce que effectivement dans les objectifs du groupe de travail, il y a notamment d'inscrire cette protection de la fratrie dans le Code civil. En quoi l'inscription dans le Code civil pourrait modifier les choses par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans les décrets?
Alors il y a d'une part l'aspect symbolique, hein, je pense, qui est important. Il faut savoir que il existe quand même dans le Code civil un droit au maintien des relations personnelles. C'est un article 375 bis du Code civil qui permet notamment aux grands-parents de pouvoir agir en justice. Les grands-parents n'ont pas à démontrer le lien existant ni le fait que la demande est conforme à l'intérêt de l'enfant. Par contre, en ce qui concerne les frères et sœurs, il leur incombe de rapporter la preuve que la demande est conforme à l'intérêt de l'enfant et que le lien existe. Alors l'objectif, c'est de pouvoir dire effectivement que les frères et sœurs doivent avoir au moins un droit équivalent à celui des grands-parents, mais il serait peut-être encore mieux que l'on puisse éventuellement reconnaître aux enfants la capacité d'ester en justice, de manière à permettre à ces enfants de pouvoir un peu forcer les pouvoirs publics à respecter le droit au maintien des relations personnelles.
Alors Stéphanie Hex, donc on le disait, vous êtes à l'origine de ce groupe de travail. Vous travaillez depuis longtemps d'ailleurs sur cette notion de fratrie. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait finalement la force d'une fratrie quand les enfants sont placés ?
La force d'une fratrie, c'est tout d'abord le fait qu'ils sont donc les uns pour les autres des pères donc de même génération, mais aussi qui partagent les mêmes origines. Et donc on sait que pour des enfants placés, la question des origines est une question délicate. Et outre le trauma pour des enfants d'avoir été retirés de leur foyer ou d'avoir été abandonnés très tôt dans leur parcours de vie, c'est l'idée de partager le quotidien avec des frères et sœurs qui sont issus de la même famille est fondamentale, parce que ces enfants ont donc alors une trace, un témoin avec eux de leur histoire. Et puis, alors ça, les recherches sur la fratrie restent un peu malheureusement le parent pauvre de la psychologie de la famille, mais malgré tout, on a quand même maintenant un recul d'une bonne vingtaine d'années, et dans les pays anglo-saxons, en l'occurrence, on a fait pas mal d'études de recherche sur le lien fraternel, et dans ces études, on a démontré maintenant, on sait, que le lien fraternel est un modérateur de stress. C'est-à-dire qu'on a prouvé que des enfants qui ont vécu des événements de vie stressants au cours notamment de la dernière année, s'ils ont un frère ou une sœur avec laquelle ils partagent une relation positive, ils ont un impact moindre au niveau des symptômes psychologiques. Donc on sait maintenant que le lien fraternel est un facteur éventuellement protecteur. Or, quoi de plus traumatisant, a priori, que de connaître tôt dans sa vie un abandon ou une séparation d'avec les parents.
Est-ce que ça peut être un nouvel élément de stabilité, finalement, vu que la famille n'est plus stable, on n'a plus des parents qui représentent souvent, normalement, on va dire, la stabilité. Est-ce que, du coup, le frère et la sœur peuvent représenter cet élément de stabilité ?
Oui. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment, non seulement ils accompagnent dans le parcours de vie, en tout cas pour les jeunes placés, ce qu'on observe, c'est que ce qui fait le désespoir quelquefois des intervenants quand les jeunes ont 17-18 ans et qu'ils doivent aller en autonomie, c'est le fait qu'on doit travailler vite, 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 on doit travailler le réseau. Que va-t-il advenir de ces jeunes quand ils vont sortir des services de placement ? Or, quelque part, c'est une aberration, puisque le réseau primaire de base, c'est la fratrie. Donc, accueillir les fratries dans un endroit de placement, c'est travailler le premier réseau, le réseau primaire de l'enfant, qui fait qu'à 17-18 ans, quand il doit sortir de l'institution, il a déjà son réseau de frères et sœurs. Sinon, il doit reconstruire après ses liens avec des frères et sœurs qu'il ne connaît pas. Donc, non seulement c'est important pour son développement de grandir à côté d'un frère ou d'une sœur qui partage la même histoire que lui et les mêmes difficultés que lui, mais aussi c'est un facteur d'insertion sociale pour l'avenir.
Alors, Caroline Salingros, je le rappelle, donc vous êtes directrice pédagogique à l'ASBL Le Clos du Chemin Vert. Donc vous accueillez notamment des enfants placés. Est-ce que vous essayez, vous, dans votre pratique au quotidien, de privilégier ce placement en fratrie ?
Oui, alors tout d'abord, j'aurais juste envie de préciser que je pense ne pas me tromper en disant que les mandants, donc ceux qui nous confient ces enfants, donc le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur du service de protection judiciaire, la volonté est quand même toujours de pouvoir maintenir ces fratries. Je crois effectivement que le premier frein au fait de ne pas pouvoir les maintenir ensemble, c'est quand même le manque de place au bon moment, au même endroit. Donc je dirais que ça, c'est la première chose, et donc je ne voudrais pas qu'on puisse penser qu'il y a une volonté, en tout cas claire, de pouvoir séparer les fratries. Je pense que c'est important de le rappeler, au-delà du fait que ce ne soit pas inscrit encore dans la législation au niveau fédéral. Maintenant, c'est clair que nous, au Clos du Chemin Vert, on essaie vraiment de pouvoir maintenir ces fratries, mais ce n'est pas toujours possible. Nous, on a la possibilité de pouvoir le faire parce que nous avons trois groupes de vie, en fait, qui permettent d'accueillir des enfants de 0 à 12 ans dans le groupe des jeunes enfants, et ensuite les adolescents ans, 12, 18. Toutes les institutions, en fonction de leur projet pédagogique notamment, ne peuvent pas accueillir des enfants tout le long, je dirais, de leur vie. Maintenant, je voudrais aussi peut-être préciser que l'éloignement en soi, ça doit vraiment être l'ultime mesure au niveau de l'aide à la jeunesse, et que quels que soient les motifs qui ont amené cet éloignement, qu'il soit juste ou pas, qu'il soit grave ou pas, ou moins grave, je dirais, ça reste un drame. Et effectivement, comme le disait Madame Max ici, la fratrie reste finalement le seul point de repère dans des situations extrêmement dramatiques.
Alors très concrètement, Caroline Salingros, si vous retrouvez face à une fratrie de 3, 4, 5 enfants, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment ça se passe aujourd'hui très concrètement?
Alors, je pense que si l'on se place du côté, du secteur public ou du tribunal de la jeunesse, qui doit prendre une mesure d'urgence sur base de l'article 39 du décret, l'urgence fait que les enfants sont placés dans des lieux différents parce que c'est effectivement là où il y a de la place. Alors, toute la difficulté et la volonté, je pense, des conseils directeurs et des institutions qui accueillons, nous, en tout cas, les enfants, c'est de pouvoir les rassembler à un moment donné. Mais disons que l'éclatement à la base est parfois expliqué simplement par l'urgence de trouver des places. Et donc là, c'est très compliqué de réfléchir à un projet d'avenir. La seule urgence, c'est l'éloignement familial sur le champ. Donc effectivement, toute la difficulté et l'intérêt, ce sera de pouvoir après rassembler ces jeunes autant que possible dans une même institution, quand effectivement c'est la décision qui en découle.
Alors, quand les enfants sont séparés, donc quand les frères et sœurs sont séparés, est-ce qu'il y a quand même des moments où on peut les réunir, des moments où ils se rencontrent, il y a des choses qui peuvent être organisées?
Oui, bien sûr. Alors, de nouveau, je repars du côté du secteur public qui clairement demande à ce que les enfants puissent se voir entre eux. Généralement, c'est clairement nommé. Maintenant, la réalité fait que si je prends par exemple notre situation à Chimay, quand un enfant est placé chez nous et qu'il y en a deux autres à Namur et un à Bruxelles. Effectivement, pour les parents qui doivent se rendre déjà dans les trois institutions différentes, c'est extrêmement compliqué. Et pour organiser des rencontres fratries entre les institutions, bah effectivement, de nouveau, ça monopolise. Et c'est notre boulot, donc c'est normal qu'on puisse le faire, mais ça prend énormément de temps de pouvoir rassembler ces fratries de manière régulière. En général, nous, ce qu'on fait, ce qui nous est demandé, et ce qu'on fait en tout cas autant que possible, c'est de pouvoir rassembler les fratries dans les temps de vacances, pendant les congés scolaires, où effectivement, on essaye un maximum de pouvoir organiser des activités fratries. Maintenant, de nouveau, je pense que quand c'est possible, le lien est clairement maintenu, mais c'est la réalité matérielle qui fait que ce n'est pas toujours possible de le faire aussi.
Et puis, j'imagine, pour une famille d'accueil, accueillir un enfant, c'est une chose, mais j'imagine que quand on lui dit, il faudrait accueillir 3-4 enfants, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer du coup comme solution concrète pour ces familles d'accueil qui se sentiraient peut-être un peu démunies face à autant d'enfants?
Oui, c'est clair que pour une famille d'accueil, accueillir 3-4 enfants, c'est loin d'être une évidence. Alors, j'ai envie de dire que peut-être on pourrait travailler davantage à accompagner ces familles. Il n'est pas impossible que certaines familles se sentent les épaules d'accueillir 2 ou 3 enfants plutôt qu'un seul. Mais alors, ça nécessiterait effectivement une aide, un soutien d'accompagnement du travail du lien. Et par ailleurs, si même elle ne peut pas accueillir l'ensemble de la fratrie, alors là, de nouveau, c'est mettre en place des moyens qui permettent de travailler le lien. Parce qu'une autre question, la question n'est pas seulement de permettre aux enfants de se voir, parce que se voir, bien sûr, c'est important, mais la deuxième question, c'est que se passe-t-il pendant les rencontres? Qu'est-ce qu'on y fait pendant ces visites-là? Parce que les enfants puissent se voir de temps à autre, s'ils se voient 1 heure par mois, par exemple, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'ils arrivent à tisser quelque chose, du lien, une complicité? Pour cela, il faut idéalement qu'un intervenant puisse être dédié à ce travail du lien, puisse faire en sorte que les enfants connectent, puissent éventuellement aussi travailler ensemble, aborder des parties de leur histoire. Et donc pour ça, il faut, et ça c'est mon espoir aussi par rapport à ce groupe, c'est que l'insistance sur l'importance des liens de fratrie, que ce soit inscrit davantage au niveau juridique, que ce soit précisé, que ça influence les pratiques, en fait, et que ça influence les pratiques, mais aussi la formation des travailleurs et des intervenants. intervenants. Parce que, encore aujourd'hui, les équipes peuvent se trouver relativement démunies face au fait de, OK, d'accord, j'ai des frères et sœurs devant moi, je fais en sorte de, je mets de l'énergie pour qu'ils se voient, mais toujours est-il que je ne sais pas comment véritablement faire un travail de ce lien, qui est un lien tout à fait spécifique. Hein.
Oui, je voulais ajouter quelque chose.
Mais tout simplement, je ne serai pas très long, c'est que la famille d'accueil, quand on travaille dans l'accueil familial, il faut travailler le lien d'origine. C'est par essence même le travail, l'accueil familial. L'accueil familial s'inscrit dans un travail avec les parents d'origine. Et le lien d'origine, c'est la famille, c'est le milieu familial, mais c'est aussi les frères et sœurs. On a peut-être trop tendance parfois à travailler avec les parents, et je crois que c'est un peu l'intérêt du groupe de travail, c'est que on travaille de manière beaucoup plus horizontale plutôt que verticale, et donc l'objectif ce serait quand même effectivement de travailler le lien avec les frères et sœurs. Alors c'est vrai que dans des familles d'accueil on peut pas effectivement nécessairement accueillir 4-5 enfants, ça c'est, on peut pas demander aux familles d'accueil de s'inscrire dans des projets comme ça, mais néanmoins on peut quand même imaginer des formules où le service accompagne les enfants et leur permet en tout cas de pouvoir les rencontrer comme ça se fait avec les parents. Donc effectivement, cette question de l'accueil familial est importante parce qu'il ne faut pas oublier que le nouveau décret entend accorder une priorité à l'accueil familial.
Donc le nouveau décret de l'aide à la jeunesse.
De l'aide à la jeunesse. Et l'accueil familial, c'est quand même une mesure de placement très 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 importante. Il y a effectivement beaucoup de reprises de guidance, c'est-à-dire d'abord des accueils intrafamiliaux, et puis ensuite on envisage, si c'est pas possible de pouvoir envisager de travailler avec la famille, on envisage des accueils avec des familles tierces. Mais donc, d'où l'importance. Alors, à partir du moment où l'on veut effectivement accorder une priorité à l'accueil familial, je pense qu'il faut aussi accorder une priorité aux moyens d'accompagnement par rapport aux enfants et au maintien du lien.
On parle donc de cette protection du lien des fratries. Aujourd'hui, dans notre émission, on en parle avec Serge Léonard, avocat et juriste expert auprès du délégué général aux droits de l'enfant. On en parle aussi avec Stéphanie Ax, docteur en psychologie et thérapeute familiale à SOS Village d'Enfants. Et enfin avec Caroline Saint-Lingros, donc directrice pédagogique du Clos du Chemin Vert. Alors Caroline Saint-Lingros, je me tourne vers vous parce que vous avez fait un travail avec des enfants qui aujourd'hui sont devenus adultes, qui ont été placés plus jeunes et ont été séparés de leurs frères et sœurs. Et vous avez eu pas mal de témoignages où on voit que c'était une vraie souffrance pour eux.
Oui, alors plus exactement, j'ai eu la chance de participer en fait à la réalisation d'un reportage avec des associations ATD Carmonde et LST, donc c'est Lutte Solidarité Travail, ainsi que des membres de l'administration de l'aide à la jeunesse et d'autres professionnels autour de la question du lien. Et donc ce reportage s'intitule « Famille pauvre, soutenir le lien dans la séparation ». Et effectivement, même si l'essentiel de ce reportage témoigne du maintien ou de la recréation du lien entre des enfants et leurs parents, il s'agit aussi, et notamment il y a un témoignage très touchant qui explique que avoir été séparé de ses frères et sœurs quand on est adulte, c'est aussi devoir tout recréer. On a vécu des choses, ils ont vécu des choses différentes, chacun de leur côté, et encore aujourd'hui, ces adultes témoignent de cette souffrance et de la difficulté d'aller regagner ce lien et de le reconstruire à tout prix. Maintenant, je pense qu'effectivement, comme l'a dit très justement tout à l'heure Madame Ax, la grande difficulté, c'est que deviennent-ils à 18 ans, ces jeunes qui ont été placés. Et donc, effectivement, je pense que se recentrer sur la famille et sur les fratries aujourd'hui, c'est la seule chose qui, à mon avis, m'apparaît primordiale dans les limites, effectivement, où c'est possible. Ça, c'est une évidence.
Est-ce que c'est un peu une sorte d'investissement sur l'avenir, d'essayer de renforcer ce lien entre les frères et les sœurs en se disant que par la suite ils auront moins de problèmes que les autres?
Ah oui, complètement. Pour moi, ça, j'en suis convaincue. D'ailleurs, c'est valable un peu pour tous les frères et sœurs, quelle que soit leur situation. On sait maintenant que les frères et sœurs ont un impact important sur le développement d'un enfant. On parle toujours, on est beaucoup plus habitué à considérer l'impact d'un père ou d'une mère d'un parent sur la vie et le développement d'un enfant, mais les frères et sœurs, on sait maintenant qu'ils ont un impact réel sur le développement de l'enfant, notamment sur comme agent de socialisation. Donc ça, c'est important. Et donc, je pense effectivement que c'est vraiment un pari pour l'avenir d'accueillir les frères et sœurs ensemble et de faire un vrai travail du lien, non seulement pour renforcer ce lien entre eux, mais aussi pour les renforcer eux-mêmes en tant qu'individus, et puis les renforcer comme individus qui viennent de quelque part, qui ont leurs origines et qui partagent ces origines avec leurs frères et sœurs. Ils ne sont pas, même un enfant qui a été abandonné à quelques mois, n'est pas suspendu dans le vide, n'est pas issu de nulle part. Or, un frère et une sœur vient ancrer en fait la réalité de ses origines.
Est-ce que c'est l'avantage dans la structure dans laquelle vous travaillez, donc SOS Vie à l'âge de l'enfant, là le principe c'est quoi? C'est les enfants qui sont, enfin les frères et sœurs sont réunis et on leur trouve des parents d'accueil qui viennent dans leur maison, c'est un peu ça le principe?
C'est une structure en fait qui existe un peu partout dans le monde, il y en a un seul en Belgique, et donc les enfants sont accueillis en fratrie dans des maisons. Donc, et dans chaque maison, il y a soit une fratrie, si les enfants sont nombreux, soit deux fratries, le plus souvent. Et donc, ces enfants sont accueillis par ce qu'on appelle un responsable de maison, qu'on appelait jusqu'à présent les mères SOS, les mamies SOS. Maintenant, ce sont des responsables de maison qui, la plupart du temps, s'alternent. Donc, vous avez un responsable de maison qui est là toute la semaine, et puis la semaine suivante, c'est un autre responsable. Et donc, l'intérêt, c'est d'offrir une structure familiale, un cadre familial pour ces enfants qui vivent à 6 ou 7 enfants en général et qui donc vivent surtout avec leurs frères et sœurs. Et c'est vrai que c'est la force du village d'enfants, c'est d'avoir inscrit dans le contrat pédagogique que c'est un accueil de fratrie. Ça veut dire que s'il y a une place, deux places, parfois trois places qui se libèrent, on attend la prochaine fratrie. Donc on peut se permettre d'attendre pour accueillir vraiment des frères et sœurs.
Avec des résultats positifs, hein, vous avez l'impression qu'au final, ils s'en sortent mieux peut-être que d'autres?
Mais je dirais que le résultat le plus positif rejoint ce que j'abordais tout à l'heure, c'est vraiment la question du réseau. Mmh. Il y a des frères et sœurs qui, à 17-18 ans, trouvent un appartement ensemble, alors avec des difficultés liées au fait de vivre entre frères et sœurs, mais ils ne sont pas jetés seuls dans le vide. Hein. Il y a quelque chose. Et puis alors, évidemment, les responsables de maison sont toujours présents aussi pour les accueillir le week-end hein, s'ils souhaitent revenir. Mais le premier réseau est facilité en fait par le fait qu'ils se retrouvent avec leurs frères et sœurs. Oui, ça peut être un beau tremplin.
Alors revenons pour terminer au groupe de travail. Alors on l'a dit, hein, vous travaillez sur une proposition de loi, mais vous avez aussi élaboré un questionnaire qui va être distribué aux juges et aux services de protection judiciaire. Alors peut-être juste Caroline Saint-Lingro, vous qui avez travaillé dans un service de protection judiciaire, vous disiez tout à l'heure il n'y a pas une volonté vraiment de séparer les enfants, mais concrètement est-ce que les personnes qui travaillent dans ces services ne se rendent pas compte peut-être de l'importance ou n'ont pas tous les moyens pour le faire, et c'est ça que vous essayeriez peut-être de savoir avec le questionnaire?
Oui, je pense effectivement qu'il n'y a aucune volonté de ne pas maintenir les fratries, mais la réalité, notamment le dispositif qui a été mis en place des capacités réservées et qui attribue à chaque institution un nombre spécifique de places pour tel ou tel mandant, a évidemment un intérêt certain pour toute une série de choses, mais pour celui-là c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'effectivement on a moins la possibilité de pouvoir jongler avec les places et de pouvoir maintenir les fratries ensemble. En tout cas ça demande d'anticiper, ça demande de beaucoup communiquer entre nous, je dis entre nous, c'est les services, les mandants et les institutions privées. Maintenant je pense effectivement que maintenir les fratries au-delà des bienfaits pour les frères et sœurs, il y a un réel intérêt aussi au niveau des parents, j'ai envie d'en parler juste un instant, de dire que quand des parents doivent se rendre dans trois institutions extrêmement éloignées, c'est compliqué de pouvoir s'investir, de retravailler ce lien, et donc je pense qu'en plus, il y aurait un gain de temps certain de pouvoir maintenir les fratries, se focaliser sur le travail des parents et du maintien du lien avec une seule institution, et dès lors, pouvoir libérer sans doute, et on l'espère, c'est le but, des places plus rapidement, puisqu'on pourrait aboutir à des réintégrations familiales sans doute plus rapides que quand les fratries sont éclatées. Il y a un réel intérêt, les placements multiples et à des endroits différents appauvrissent réellement les familles à tout niveau. Voilà.
Alors Serge Léonard, vous me disiez en préparant l'émission que l'un des intérêts aussi de ce groupe de travail, c'était que les acteurs parlaient ensemble et qu'on vous aviez chacun un point de vue différent. Voilà, il y a le point de vue juridique, le point de vue psychologique ou le point de vue vraiment de ceux qui travaillent du côté de l'aide à la jeunesse. Et donc pour vous, ça c'est une force de ce groupe de travail ?
Ah, je pense effectivement que décloisonner les secteurs, décloisonner les services, travailler de manière pluridisciplinaire au sein même de sa propre institution, c'est toujours une richesse effectivement de pouvoir s'inscrire dans ce projet. Par ailleurs, je pense que dans le cadre de notre travail, nous devons aussi nous décloisonner par rapport aux perspectives. Il ne s'agit pas de penser exclusivement en termes d'aide à la jeunesse, mais il faut aussi penser en termes d'adoption, par exemple, hein, en matière d'adoption. Ces questions-là doivent être traitées. Donc, on doit aussi
Protéger aussi cette relation de la fratrie, ce lien de la fratrie.
En tout cas, on doit s'interroger sur cette dimension-là. On doit s'interroger sur effectivement le maintien du lien de fratrie dans le cadre de l'adoption. C'est naturellement plus difficile puisque l'adoption supprime un lien de filiation et la fratrie fait partie du lien de filiation. Mais cette question doit néanmoins être posée en amont. Et puis, je pense aussi qu'il faut aussi réfléchir par rapport aux familles recomposées, par exemple, où il y a effectivement la famille a évolué et il y a effectivement des enfants qui vivent des relations de fratrie avec des quasi-frères, des quasi-sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs. Et dans cette perspective-là, il est important de pouvoir maintenir le lien quand éventuellement la famille recomposée se décompose, quoi. Donc je crois que c'est un groupe de travail très intéressant parce que nous avons tous des positions différentes et des postures différentes et là on se rencontre. Donc oui.
Alors je voulais juste imaginer un cas concret. Disons que par exemple pour sortir effectivement un peu de cette question du placement, disons qu'une mère a deux enfants avec deux pères différents. Si la mère décède, est-ce que la fratrie peut est-ce qu'il y a un moyen de protéger cette relation entre les deux enfants qui sont de pères différents?
On pourrait imaginer une action, une requête qui serait mise en œuvre par un enfant doué de discernement, à condition bien évidemment que le tribunal reconnaisse la capacité juridique de cet enfant à pouvoir agir en justice. On pourrait imaginer éventuellement la désignation d'un tuteur ad hoc par rapport à un enfant non doué de discernement qui pourrait introduire une procédure. On peut imaginer qu'une personne, le représentant de l'enfant, puisse agir dans l'intérêt de son propre enfant pour introduire une procédure. C'est toujours quand même relativement travaillé avec des bouts de ficelle et ce serait quand même plus facile d'avoir un texte qui facilite les choses. Pour le moment, on travaille avec des bouts de ficelle. Et donc, il faut connaître les bouts de ficelle et ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des bouts de ficelle ne savent pas introduire des procédures aux fins de maintenir le lien de fratrie.
Alors peut-être le mot de la fin pour vous, Stéphanie Ax, vu que vous êtes à l'origine de ce groupe de travail, quels sont vraiment les deadlines et les objectifs assez précis du groupe de travail ?
Donc, un des objectifs, donc, c'est celui donc de proposer un texte, un article de loi à ajouter au Code civil. Donc là, nous sommes en train de préparer l'argumentaire psychologique et juridique. Ça, c'est un axe. Et puis le deuxième axe, c'est celui donc du décret de l'aide à la jeunesse. Et pour cela, donc le questionnaire va être mis en ligne dans quelques jours pour, comme on l'a dit tout à l'heure, essayer de cerner vraiment les aides éventuelles et les freins, surtout à la mise en place du placement des fratries, et puis pour récolter aussi quelques chiffres, hein, pour savoir très concrètement en Belgique le nombre de placements d'enfants et le nombre de placements conjoints, qu'est-ce qui a aidé, qu'est-ce qui a freiné. Donc là on en est un peu à cette étape-là, et puis on espère que le plus vite possible on va pouvoir avancer, mais on sait aussi que ça va prendre un certain temps.
Oui, j'imagine qu'il faut aussi peut-être changer un peu les mentalités aussi, et que ça prend évidemment toujours plus de temps. passionnant. En tout cas, merci à tous les trois, Stéphanie Ax, Caroline Saint-Lingro et Serge Léonard, de nous avoir éclairés sur cette question. Alors j'ajouterai pour être complète que vous n'êtes pas seule dans ce groupe de travail. On y trouve aussi Marie-Christine de Saint-Georges, psychologue et thérapeute familiale, Marie-Thérèse Kassmann, professeure en sociologie de la famille à l'ULG, Julie Coste, avocate, Virginie Degey, déléguée en chef du service de protection de la jeunesse de Verviers, et enfin Caroline Vreyens pour SOS Village d'Enfants. On le voit, c'est un groupe qui est très diversifié. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
Enquête de sens sur la première.